Nous allons faire la lecture de Matthieu chapitre 3. Baptême de Jésus-Christ. Oui, il a été baptisé dans le Jourdain. Parfois, des personnes m'ont dit « j'aimerais être baptisé, mais dans le Jourdain ». Je ne suis pas contre, hein, si vous me payez le voyage. Matthieu 3, et nous allons lire au verset 1er. Parole du Seigneur. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. » Béni ce texte de l'Évangile, la parole annoncée, nos cœurs en écoutent, que notre esprit soit attentif, Seigneur, à ta parole. Amen. Jean-Baptiste, sauterelle et miel, ça va ? Ça vous irait ? Il paraît que c'est comparable à nos crevettes. Et avec les sauterelles, les gens du Moyen-Orient faisaient des galettes, comme la galette des rois, hein ? Avec un peu de miel, parce que c'était très bon. C'est un plat recherché. Bon, je ne vous parle pas de son vêtement en poil de chameau. Hein. Cet homme ressemble à Élie. Et à la fin de l'Ancien Testament, le Seigneur dit, « Je vous enverrai Élie, c'est lui, pour ramener le cœur des enfants vers leur père. » On a besoin, hein. Et le cœur des pères vers leurs enfants. On en a besoin aussi. Que Dieu nous bénisse. Jean-Baptiste, on l'appelle le précurseur, celui qui ouvre le chemin vers le Christ. c'est un témoin de la lumière. Avant que le soleil se lève, déjà la lumière apparaît au loin, à l'horizon. Et Jean-Baptiste a vu la lumière avant les autres. Il a vu le Christ venir de loin. C'est un envoyé de Dieu. C'est le plus grand de tous les prophètes, le plus grand de tous les êtres humains qui ait vécu sur la terre depuis le commencement. Impressionnant, hein ? Il est envoyé pour donner au peuple d'Israël la connaissance du salut. Oui, nous préparons des baptêmes. Amen. Plusieurs personnes, une bonne dizaine, m'ont parlé du baptême récemment. Alors j'aimerais vous adresser cette prédication, mais l'adresser également à chacun de vous qui avez été baptisé, afin que nous comprenions bien certains points du baptême de Jésus et du nôtre. La Bible dit que tous venaient à lui pour être baptisés. Les gens de Jérusalem, de toute la Judée, des alentours du Jourdain, la soif de Dieu. Je pense qu'il y aura certainement un temps où on frappera à notre porte pour dire « Nous voulons nous joindre à Jésus-Christ ». Vous y croyez ? La soif de Dieu. Dans des temps parfois difficiles, je pense que Dieu peut susciter la soif d'un changement de vie. Et Jean-Baptiste prêche un changement. Il ne dit pas aux ceux qui viennent, faites le plongeon. Ce n'est pas le plongeon qui fait quelque chose. Il prêche un changement, c'est-à-dire revenez à Dieu. Conversion, repentance. Engagez-vous avec Dieu, le Dieu d'Israël. Je crois qu'on a besoin d'entendre ces choses, non ? Pour attendre le Christ, pour préparer votre cœur à la venue de Jésus et pour être sauvé du jugement. Jean-Baptiste, il a une prédication un peu dure, non ? Race de vipère, je vous ai jamais dit ça, j'espère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Jean-Baptiste, il annonce le jugement, la venue terrible du Seigneur. Il a un petit peu d'avance, mais ce qu'il dit est juste. Il disait, il a le Christ, la cognée à la main. Il a frappé sur les arbres. C'est-à-dire le peuple d'Israël qui n'est pas droit avec Dieu. Je crois que la nation d'Israël avait perdu la vocation première qui est d'être adorateur de Dieu, serviteur de Dieu. Et Jean-Baptiste les réveille. Il ramène leur cœur à Dieu. Je crois qu'on peut perdre conscience de sa vocation. On peut se relâcher dans sa persévérance avec Dieu, tous. Moi-même, vous-même. Je crois qu'on a besoin d'entendre la voix qui crie, la voix de l'Évangile, la voix du Saint-Esprit pour revenir à nos pères les prophètes, nos pères Abraham, Isaac, Jacob, les apôtres, l'enseignement des prophètes et des apôtres. C'était terrible à l'époque. Les temps étaient arrivés, Jésus était déjà là, on ne savait pas où, et tout le monde dormait. Dans le péché, par le péché. Le péché produit un endurcissement de cœur. Un cœur endurci, c'est un cœur qui ne ressent plus. Il ne ressent plus les autres, il ne ressent plus peut-être même sa propre famille, il ne ressent plus la parole de Dieu, il ne ressent plus, il est comme la corne qui ne ressent plus. Alors Jean-Baptiste, la voix qui crie, va les réveiller. Repentez-vous, changez, revenez à Dieu. Il ne demande pas, Jean-Baptiste, des sentiments intérieurs, des émotions. Il ne demande pas seulement des pratiques extérieures. Il demande des actes qui engagent, du vrai fruit, du bon fruit. À nous aussi, il nous est demandé de produire un fruit chrétien, d'amour, de compassion, de prière, d'engagement. Le baptême de Jean-Baptiste, pour moi, c'est un baptême préparatoire. C'est un baptême qui ouvrait la porte des cœurs au Sauveur qui venait. Il fallait préparer le peuple. Il faut se préparer pour le culte aussi. On ne peut pas venir au culte endormi en sortant du lit. On ne peut pas venir au culte en ayant la musique du monde dans la tête. On vient, on se prépare. Un dimanche, ça se prépare. Dès le lundi matin, on prépare la venue et la rencontre avec Jésus. J'ai remarqué que les quatre évangiles parlent du baptême de Jésus. Donc c'est important pour l'enseignement de l'Église. Jésus est venu de la Galilée. Ça fait 30 ans qu'il est là, on ne l'a jamais entendu. On ne l'a jamais vu, pratiquement. Il vient de la Galilée alors que les enfants d'Israël sont dans le baptême, dans la confession des péchés, dans les larmes, dans la repentance, dans l'obéissance. Jésus vient à ce moment-là. Quand nous réglons nos péchés, quand nous obéissons au Seigneur, Jésus vient. Nous ouvrons la porte. Jean-Baptiste a refusé. Je me suis posé la question ce matin en me disant, est-ce que j'aurais eu le courage de baptiser Jésus ? Je vous avoue que non. Je me suis dit, je ne suis pas à ma place. Jean-Baptiste a refusé. Et je ne crois pas, je ne sais pas. Après tout, je ne sais pas si Jean-Baptiste a été baptisé. Vous vous êtes posé la question ? Oui ou non ? Qui l'aurait baptisé ? Est-ce qu'il s'est baptisé tout seul ? Un jour, quelqu'un m'a dit « Je me suis baptisé tout seul dans la mer. » Ce n'est pas ça le baptême. C'est l'Église le baptême. C'est l'entrée dans la communauté. C'est une confession de foi. Et je pense que si Jean-Baptiste, oui, n'a pas été baptisé, il aurait tellement voulu que ce soit Jésus qui le baptise. Pour ses péchés, pour Jean-Baptiste n'est pas parfait. Jésus est devant lui. Alors imaginez bien la scène de tous les bords du Jourdain avec des gens de mauvaise vie, des prostituées même, des voleurs, des malfaiteurs, des gens honnêtes mais pas parfaits. Le Jourdain est rempli de ces gens-là. Et Jésus vient au milieu de tous ces gens, dans la queue. Quel péché Jésus va confesser ? Parce que tout le monde confesse les péchés. J'ai fait du mal à ma mère, j'ai fait du mal à ma femme, j'ai fait du mal à mes voisins, j'ai volé le cadastre, j'ai volé les impôts, je ne sais pas, il y a plein de... Quel péché Jésus va confesser ? Dites-le-moi. Silence, aucun péché. Alors qu'est-ce qu'il fait là ? Il est baptisé pour être semblable à ses frères. Pour être solidaire de ses frères. Je crois qu'il faut être solidaire de l'Église. Il faut être solidaire des projets de l'Église. Il faut être solidaire des projets de Dieu. Il est baptisé pour être solidaire, bien que n'ayant jamais commis une seule faute. Jean-Baptiste résiste. Oh non, non, pas toi. Pas toi avec les femmes et les hommes et les jeunes et les enfants et les vieillards de mauvaise vie. Laisse faire, dit Jésus. Il est convenable que nous accomplissions, nous, toi et moi, il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Parce que voyez-vous, le baptême de Jean-Baptiste avait été ordonné par le Père. Alors si c'est le Père qui l'ordonne, Jésus se soumet. Pourtant, il n'est pas concerné, hein, mais il se soumet quand même. Il obéit. Il ne dit pas, moi je suis libre, je suis totalement indépendant de tout ça, c'est pas mon histoire, je prends du recul. Il se soumet. Il fait ce que le Père demande, même si cela est difficile, que ta volonté soit faite et non la mienne. Laisse faire ce qui est juste. Ce qui est juste, eh bien, c'est que ce Christ que Dieu nous envoie aime le monde jusqu'à la mort de la croix. C'est ça qui est juste. C'est ça qui est le meilleur pour Dieu. Le meilleur, c'est pas que le Christ ait sa petite vie tranquille, mais c'est qu'il donne sa vie par amour pour les autres. Et je crois que là, on a toute une leçon à écouter. Le meilleur pour notre vie, c'est pas de retirer nos billes pour être tranquille, mais c'est de donner pour les autres. Amen. De se donner pour les autres. C'est le meilleur pour Dieu. Jésus est dans l'eau. Les peintres du Moyen-Âge l'ont représenté debout et Jean-Baptiste avec une coquille sur la tête. Là, mais il entre dans l'eau, c'est écrit, hein, jusqu'au cou. Il descend dans le plus profond de notre misère, non ? Parce que le Jourdain, avec tous les péchés qui étaient confessés, « Moi, j'ai fait ceci, moi, j'ai fait cela », il confessait. Il descend dans la misère humaine. Lui, Jean-Baptiste disait, il a la sacognée à la main et il va couper les arbres qui ne portent pas de bons fruits. Mais là, il est à côté de gens qui sont tous dans les problèmes familiaux, professionnels, qui confessent leurs péchés. Mais là, il ne brise pas le roseau froissé. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. C'est pas le Christ qui vient avec la cognée, c'est le Christ qui va aimer ce monde jusqu'à mourir pour le sauver. Amen. Vous voyez Jésus dans l'eau. Sur les bords, sur les rives, là, il y avait certainement des pharisiens qui refusaient le baptême. Et qui devaient se dire, regarde-le l'autre. Oh, il confesse qu'il a trompé sa femme. Il confesse qu'il a fait mal à ses enfants. Regardez-le. Oh, puis celui-là, qui c'est celui-là? Jésus de Nazareth. Oh, regardez-le. Il entre dans l'eau, il se laisse traiter comme un pécheur. Il s'humilie. Il est peut-être la risée de ceux qui se moquent des baptisés. Il y avait des foules, des milliers de gens au baptême. Il se défait de sa gloire. Il est baptisé pour nous. Il est baptisé pour faire un plongeon dans notre vie. Un plongeon dans notre humanité. Il se donne à nous au baptême. C'est pas rien que le baptême. C'est pas un petit truc qui passe comme ça une fois. C'est un don total qui va durer toujours. Il est donné à l'Église. Il s'abaisse dans le baptême pour rejoindre des hommes, des femmes à côté de lui qui sont fatigués et chargés par le péché. Il s'abaisse. Et le baptême, pour moi, représente cet autre baptême qui s'appelle la mort sur la croix. Il disait, j'ai un baptême dont je dois être baptisé, c'est le baptême de sa croix. Et le baptême dans l'eau, déjà, représente la croix. Car ce baptême de Jésus, c'est un plongeon dans la souffrance des hommes, dans la mort, dans les ténèbres humaines. Le baptême de Jésus, c'est une consécration, c'est un renoncement à sa volonté. C'est aussi le sens que je donne au baptême. Au baptême, je dis au Seigneur, je ne fais plus ma volonté, mais ta volonté. Je veux que tu sois toujours avec moi et devant moi. Je veux renoncer à moi-même et me consacrer à ton œuvre et à tes paroles. C'est ça le sens du baptême. On se donne, c'est une alliance. Au baptême, le Christ qui descend dans l'eau boueuse du Jourdain, il a renoncé à son vêtement de gloire, là. Il fait partie de tous. Et il a pris sur lui nos vêtements de tristesse, de déception, de mort, de peur. Il y a un changement de vêtements, là. Hein. Un jour, un roi voulait voir Dieu. Alors il a convoqué les grands du royaume en disant « Connaissez-vous quelqu'un qui a vu Dieu, qui pourrait me montrer Dieu ?» Il y a quelqu'un. Il y a un pauvre qui habite au fond du royaume qui, lui, il dit qu'il a vu Dieu. Alors ils sont allés chercher. Le pauvre est arrivé en vêtements un peu comme Jean-Baptiste. Et puis il a dit, « Roi, je vais te montrer le Seigneur. Enlève tes vêtements et donne-les-moi. Et prends mes vêtements. » C'est ça le Seigneur. Il s'est dépouillé de sa gloire pour devenir un être humain, afin que nous, les pauvres, nous puissions devenir comme lui. C'est ça le Seigneur. C'est l'échange extraordinaire. Il a pris notre misère, il nous a donné sa miséricorde. Il est avec tout le monde. La vie sainte ne doit pas exclure les autres. La vie sainte, ça ne veut pas dire ce sont des gens pas fréquentables. Moi, je me tiens chez moi tranquille, dans ma cuisine. La vie sainte doit nous pousser à être dans la même humanité pour apporter la lumière. Amen. Jésus rejoint ses frères, les enfants d'Israël. Je dois aussi être avec Jésus. Je dois rejoindre mes frères, les autres, sans les juger. Il ne se moque pas de cette femme, de cet homme, de ce vieillard. Il ne se moque pas de tous ces gens qui confessent leurs péchés. Il est là pour eux. Il est avec eux. Je ne possède pas ma vie pour moi-même. Je ne vis pas pour mon petit plaisir. Paul dit, personne vit vraiment pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur. C'est pour courir avec lui. C'est pour le servir tous les jours de notre vie. Amen. C'est ainsi que nous voyons les choses. Jésus est dans l'eau, au milieu des pécheurs. Et des péchés qui doivent flotter sur l'eau. Non, vous trouvez pas? Un jour, à un baptême, ça se passait à Rennes. Il y avait un baptême, puis il y avait des ziganes. C'était tout au début, dans les débuts des années 50. Puis après les baptêmes, l'eau était toute noire. Il devait avoir les pieds sales, c'est tout. C'est pas grave. Puis il y a un frère de Zigane qui a dit, « Je savais bien que l'on avait des péchés quand même. » Jésus est dans l'eau au milieu des péchés et des pécheurs. Eh bien, puisque le Fils de Dieu nous a rejoints ainsi, je dois régler ma vie. Je dois confesser mes fautes. Je dois mener une vie droite. Puisqu'il a tout donné pour moi. Vous connaissez le film « Il faut sauver le soldat Ryan » ? Vous connaissez ? Ce soldat qui doit rentrer chez lui, qui a débarqué en Normandie il y a déjà longtemps. Il doit rentrer, il est à peine arrivé, il faut qu'il rentre, on le recherche. Mais pour le rechercher, la petite équipe de soldats américains, eh bien, va perdre la vie. Ils vont avoir toutes les petites équipes vont mourir. Parce que c'est la bataille de Normandie. Et le soldat Ryan est sauvé. Et on le voit à la fin du film, on le voit, il est déjà âgé, et il y a sa femme sur les tombes des soldats qui sont morts pour lui. Est-ce que j'ai vécu une vie correcte ? Est-ce que j'ai vécu une vie correcte et droite ? Parce que ma vie a coûté cher. Le voilà les soldats. 10. Je pense que nous devrions poser la même question. Est-ce que notre vie est correcte, vu le prix qu'elle a coûté ? La mort de Jésus, le baptême de Jésus, dans la mort. Son baptême est une consécration pour nous. Quand Jean-Baptiste le plonge dans l'eau, vous imaginez ? Jésus de Nazareth, je te baptise. Impressionnant, hein ? Quand Jean-Baptiste le plonge dans l'eau, c'est vraiment l'image de la mort de Jésus. Mais il est dit, il sortit de l'eau. Il n'est pas dit, Jean-Baptiste le sort de l'eau. Il sortit de l'eau. Donc il est remonté seul. Image de sa résurrection. On a baptisé des jeunes ici même, des jeunes sportifs, des jeunes forts, des jeunes souples. Et je n'avais pas tellement besoin de les tirer de l'eau, ils bondissaient eux-mêmes. On a baptisé aussi des handicapés. Hein. Et là, on les a pris à quatre pour les relever. Il sort de l'eau, image de sa résurrection. Mais quand il accomplit ce geste de don de lui-même, de consécration pour le peuple, pour le monde, pour vous, pour moi, devant cet abaissement, cette obéissance, Dieu se manifeste. Une voix va sortir du ciel. Et là, on va découvrir un mystère qu'on ne connaissait pas. On ne va pas le comprendre ce jour-là, et personne ne va le comprendre. Dieu est trois personnes. Le Père parle dans le ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, tu es mon Fils bien-aimé. » La colombe du Saint-Esprit et le Fils en dessous dans l'eau du baptême. Dieu est trois, Père, Fils, Esprit. Les cieux s'ouvrent au moment où Jésus est dans l'obéissance. Notre obéissance ouvrira le ciel. Amen. Notre vie réglée devant les péchés qui nous environnent ouvrira le ciel. Le ciel s'ouvre. Jésus disait, vous verrez désormais le ciel ouvert. Autrement dit, une porte ouverte pour vous, pour vos prières, vos lamentations, vos tristesses, vos peines, vos chagrins. Le ciel est à votre écoute. Vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme, comme l'échelle de Jacob. Jacob a un songe, un jour il voit le ciel ouvert et une échelle qui relie la terre et le ciel. Le ciel est ouvert, je prie chaque jour, amen. J'invoque le Seigneur partout où je suis, parce que le ciel est ouvert, amen. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Dieu a du plaisir de voir son Fils qui se donne. C'est étonnant. Hein? Il aurait pu dire, ne t'engage pas là-dedans, ce sont des gens épouvantables. Sors de là, mon fils, sors de là. Regarde où tu en es, au milieu de tous ces gens pécheurs, ces gens horribles. Mon fils en qui je prends plaisir. Le plaisir, c'est de voir son Fils qui se donne par amour. Le plaisir de Dieu, c'est notre amour pour lui et pour les autres. Il n'y a pas de plus grand plaisir pour Dieu que de voir ses enfants qui s'aiment. Amen. En qui j'ai mis tout mon amour. Tout l'amour de Dieu est dans le Christ et le Christ va nous le donner. Amen. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous l'avons lu dans Romains 5. Le Père m'aime, dit Jésus, parce que je donne ma vie. Il ne m'aime pas parce que je suis un petit chrétien tranquille tout seul, là, chez moi. Il m'aime parce que je donne ma vie. Je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. Il l'a donnée pour nous, c'est la joie du Père. Amen. Et la joie du Seigneur sera de voir son Église qui se donne, qui donne, qui avance dans le chemin de l'amour et de l'amitié fraternelle. En sortant de l'eau, l'Évangile de Luc nous dit, Jésus a prié. En sortant de l'eau, il a dit, Père, qu'a-t-il dit ? J'ai imaginé qu'il a dit, je crois que vous serez d'accord avec moi, je te rends grâce. Chaque fois, il rend grâce. On lui donne du pain, je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que tu dois faire. Il rend grâce quand il y a un Lazare qui est mort devant lui, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Il rend toujours grâce. Et vous aussi ? Une fois par mois ? Chaque jour, abondé en actions de grâce. Je crois qu'il a rendu grâce. Et je crois certainement qu'il a demandé que son Père lui envoie le Saint-Esprit pour la mission qu'il allait accomplir. Priez pour moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je prie pour vous, vous avez besoin du Saint-Esprit. Pour annoncer la bonne nouvelle, la Bible dit, il a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Ça veut dire tout. Nous, c'est une mesure, mais lui, il a toute la mesure. Et le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle, dit l'évangile de Luc, corporelle, visible. Attendez, ne vous trompez pas, le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe. Les colombes, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais il est descendu sous une forme visible. Ce n'était pas une vision intérieure de Jean-Baptiste. Il n'a pas des rêves, Jean-Baptiste. C'est un homme concret, avec son vêtement de poil de chameau. Il a vu l'esprit qui ressemblait à une colombe visible descendre sur Jésus. Comme une colombe qui montrait la douceur du Saint-Esprit, la pureté, la simplicité. Et l'Esprit est descendu sur Jésus et il s'est arrêté sur Jésus. La colombe s'est arrêtée sur Jésus. Tous les tableaux de peintres, quand ils nous montrent le baptême de Jésus, il y a toujours un oiseau qui flotte dessus. Vous avez déjà vu ça? Comment s'appelle cet oiseau? Les peintres représentent le faucon Crécel, mais je ne suis pas sûr. Et cet oiseau qui voltige, vous savez, parfois on le voit dans les champs, il voltige, il ne bouge pas, il est extraordinaire. Hein. Et cet oiseau, il est surnommé l'oiseau Saint-Esprit. L'oiseau, le Saint-Esprit qui se pose et qui reste sur Jésus. Et Jean-Baptiste avait dit, pardon, Dieu avait dit à Jean-Baptiste, quand tu verras l'Esprit descendre et se poser et s'arrêter sur Jésus, c'est lui le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit s'est arrêté sur lui. Et le Saint-Esprit nous a été donné par Jésus. Amen. Il l'a répandu sur l'Église pour nous aider dans notre témoignage. C'est mon réconfort, frères et sœurs, je vous le dis, quand je rends témoignage de savoir que je suis soutenu par le Saint-Esprit. Que ce soit votre réconfort. Quand vous êtes dans votre famille, devant vos collègues de travail, vous n'êtes pas seul, le Saint-Esprit est avec vous. Amen. La mission de Jésus peut commencer. Et moi, je vais m'arrêter. Il est tout seul pour commencer. Israël est un peu dans la déconfiture. Mais le Seigneur sait transformer la terre informe et vide, non ? Et la rendre belle. Et je crois que nos vies informes et vides, le Seigneur a la capacité de les transformer. Amen. Parce que l'Esprit est sur lui, parce que la parole peut tout, parce que l'Esprit Saint peut tout, et Dieu fera tout ce qu'il a décidé et promis dans notre vie. Le baptême est en lien avec le Saint-Esprit. Notre baptême est en lien avec le Saint-Esprit. Mon baptême, c'est moi qui me donne à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui me donne la vie. Intérieure, divine. Je me donne, il se donne. C'est un échange, une alliance, un mariage. Je suis en lui, il est en moi. Au baptême, je suis en lui, à la scène, il est en moi. Je vais conclure. Le Jourdain, je n'ai jamais vu le Jourdain. Il y a des personnes qui ont vu le Jourdain parmi nous? Il faut qu'on y aille un jour. Oh, c'est pas le Rhône quand même, c'est pas la Seine, c'est à peine moins que la Vilaine. Le Jourdain dans la Bible, c'est une frontière, vous savez. Quand Israël a été libéré d'Égypte et du désert, ils sont passés cette frontière pour être chez eux. C'est là au Jourdain que Jacob a lutté toute la nuit avec l'ange. Pour laisser sa vieille nature de trompeur et de roublard. Toute la nuit, il a lutté avec l'ange pour abandonner son ancien moi et devenir un homme nouveau. Le baptême, c'est un lieu de conversion, c'est un lieu de passage, c'est une frontière. Votre baptême aussi, c'est un passage, une conversion. Une frontière, il y a un avant, il y a un après. Le baptême nous immerge dans la mort et la vie de Jésus, c'est-à-dire dans le plus grand amour qui soit dans le ciel et sur la terre. On est plongé dans l'amour de Dieu. Le baptême, c'est toute notre vie plongée dans le Christ. Nous vivons notre baptême chaque jour, chaque jour. Nous sommes cachés en lui chaque jour. C'est une expérience, une nouveauté qui se renouvelle malgré nos limites, nos faiblesses, nos péchés même. Jésus a été avec nous dans le baptême. Jésus est avec nous chaque jour, nous sommes plongés en lui. Je me plonge chaque jour dans les Écritures. Je me plonge aussi comme vous dans la prière. Nous nous plongeons dans l'amour fraternel. On n'arrête pas de plonger. Nous n'arrêtons pas de plonger dans le Christ chaque jour. Chaque jour, nous sommes en relation avec lui. Les cieux sont ouverts. Le Père nous parle. La colombe du Saint-Esprit est toujours avec nous. Le Fils est avec nous pour l'éternité. Amen. Souvenez-vous de votre baptême. Engagez-vous, mes amis qui avez demandé le baptême. Le ciel est ouvert, votre vie consacrée, c'est la plus belle chose au monde. Que Dieu vous bénisse et en avant. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons à nouveau nous engager avec toi, délaisser ce qui est passager, ce qui est vanité, pour te suivre dans le solide, dans l'éternel, dans ce qui ne passera pas. Nous voulons saisir le bord de ton vêtement, nous voulons saisir ta main, nous voulons saisir tes paroles et les faire descendre au fond de nos cœurs. Nous voulons vraiment vivre la transformation, le changement, la métamorphose, la transfiguration dans toute notre vie. Que ce baptême dans lequel nous sommes entrés soit l'expérience de tous les jours de notre vie. Merci pour la vie de résurrection qui commence en nous. Amen. Bénis ton Église, les frères et sœurs qui vont être baptisés. Que ta bénédiction soit sur nous et sur eux. Amen.